L'eau des hommes et les hommes de l'eau. Les mardis de l'été 2022 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.
15e et 16e siècle, les Basques de la Méditerranée à la Baltique et à Terre-Neuve. Voici la deuxième et dernière partie de la conférence de Xavier Larramendi, vice-président de Yakinsa, et de Bertrand Ariag, capitaine des corsaires. Nous retrouvons tout de suite Bertrand Ariag.
Voilà, nous allons parler un petit peu de routes maritimes. Alors, les Basques, ils n'ont rien inventé. Hein. Il y avait déjà des trafics qui avaient été mis en place depuis les Romains, depuis les Phéniciens. Il y avait la route des métaux, hein. Il y avait la route de l'étain. Vous avez premièrement la route hanséatique, hein, qui va partir donc de Bruges, de Londres, qui est essentiellement donc tenue par des Anglo-Saxons, qui passe au large du Danemark, qui va sur Lübeck, Danzig, et puis maintenant Lituanie, Estonie. Les Basques disent, c'est Goyeneche, Eugène Goyeneche, aurait dit que le gouvernail à Étambeau aurait été d'inspiration, donc non pas flamande, mais de la Hanse. Je vous rappelle que vous avez un magnifique macaron à la cathédrale de Bayonne dans une des chapelles qui montre bien cette coca bayonnaise avec cet étambeau à la bayonnaise ou à la navarraise. La route vénitienne, c'est celle qui est en rouge, c'est celle qui est de la route des épices. Alors rapidement, je vais reprendre des trucs parce que il y a tellement de produits, c'est qu'il faut pas s'y paumer et il faut pas raconter n'importe quoi. Donc essentiellement, ils importaient, donc c'est les Basques qui livraient de la céréale et du sel, et à Gênes, ils sortaient du sel, du blé, des bijoux, des verres, et puis différentes marchandises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les Génois et les Vénitiens, ils gardaient les produits à haute valeur ajoutée. Et nous, les Basques, qu'est-ce qu'on était ? On était transporteurs, l'important c'était de faire des voyages, de travailler, et puis surtout d'apprendre le métier, d'avoir des relations avec des commerçants et de pouvoir, avec les organismes qui étaient sur place, et bien de gagner des parts de marché. Ce qu'il faut voir, c'est que c'était en général des familles entières, hein, entre Laredo, hein, Laredo à ce propos, je vous rappelle que Juan de la Cosa, celui qui a fait la carte qui est là-bas, hein, qui était le pilote de Colomb, eh ben il habitait Laredo. Donc c'est Laredo, Castro Urdiales, Bilbao, et puis ensuite les différents ports basques. Je ne vais pas me lancer dans les élucubrations donc de citer lequel. Donc en Méditerranée, bon, c'était les principaux pôles, le port d'embarquement et de débarquement. Donc c'était avant tout Gênes, Alexandrie, Acre, Antioche, Kio et puis l'Asie mineure. Et puis surtout le point fondamental, c'était Cadiz. Pourquoi ? Parce que Cadiz était l'ouverture donc sur tous les marchés du Nord. Voilà. Alors, je ne sais pas si on y voit là-dessus. C'est un petit peu les flux de marchandises donc qui étaient opérés entre l'Asie mineure, la mer Noire, mer Caspienne. Et puis la mer Tyrrhénéenne, les côtes espagnoles, et puis ensuite l'arc Atlantique. L'arc Atlantique, ça veut dire ça part de Cadiz, hein, et ça va jusqu'à Lübeck. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient des gens qui se permettaient de pouvoir entreposer et de pouvoir livrer. Il y avait des flottes qui étaient spécialisées, et puis il y avait des concurrents locaux. Les Basques ne faisaient pas tout, d'accord. Alors l'enseignement génois. Je vous ai parlé tout à l'heure donc que la grosse chance pour les Basques, c'était d'être en contact direct donc avec des commerçants, des banquiers. Et donc, ils ont beaucoup appris sur les types de financement, sur les assurances au Moyen-Âge, les échanges commerciaux, parce que ce qui est bien, c'est bien d'acheter et de vendre, mais ce qui est encore mieux, c'est d'échanger. C'est-à-dire d'assurer une rotation et d'être là sans arrêt à faire du chiffre et à pouvoir vendre et acheter. Alors pour cela avait été mis en place le prêt à la grosse aventure. Alors le prêt à la grosse aventure, il a été tout d'abord au XIIe, siècle, il a été critiqué par l'Église parce que l'Église pensait que un argent qui ne travaille pas ou s'il n'y a pas de labeur, c'était condamnable. Donc il y a eu des bulles pour dire non, non, il ne faut pas faire de commerce comme ceci, avec ce principe. Le prêt à la grosse aventure, c'est un prêt qui a fonction d'assurance, avec un taux d'intérêt élevé, hein, élevé qui peut être de 8 à 30 %. Par contre, selon les risques, il peut monter à 100 %. Il y a cette rémunération, elle est indépendante de la durée. Le contrat est écrit et il y a des garanties et des contraintes. C'est un placement risqué, mais rémunérateur. C'est le modèle de Venise et de la Hanse. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est des techniques de commerce international où vous vendez CIF, Cost, Insurance and Freight, ou FORB, Free on Board. D'accord ? Et ce que cherche le Basque, c'est quoi ? C'est que finalement, lui, il n'est qu'à transporter, qu'il n'ait pas de soucis, qu'il file. Alors, soit il travaille pour un marchand, soit il travaille pour différents marchands, justement pour compléter le chargement. En fait, c'est des chargeurs. Alors, c'est un moyen d'accroître le patrimoine pour de riches propriétaires, qu'ils soient italiens, qu'ils soient basques, qu'ils soient castillans. Ça fait le rôle des banquiers, des courtiers et du prêt maritime. Voilà. C'est ce que les Basques ont attendu. Alors ça c'est le mode de financement qui est propre. Il y a le revers de la médaille, bien entendu. Il y a toujours eu de la course, il y a toujours eu de la piraterie, il y a toujours eu de la contrebande. Et mon Dieu, vous savez, quand on a les Ottomans qui sont en face, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver vendu à un émir. Il y a quelques anecdotes qui sont assez surprenantes, mais ça a existé. Et il faut savoir que c'était l'Église, justement, qui avait des missionnaires et qui se permettait de négocier à Alger le rachat, donc des personnes rançonnées ou vendues par le dé d'Alger. Les corsaires et mercenaires de la mer, que ce soit les couronnes de Castille ou la couronne d'Aragon, ils étaient là pour protéger les corsaires. Pourquoi ? Parce que c'était des gens de guerre. Ils s'occupaient de la défense des mers, ils faisaient de l'antipiraterie, mais surtout, ils entravaient les activités commerciales des concurrents. Et surtout, ils facilitaient un approvisionnement de certaines villes portuites à moindre frais. C'est-à-dire que c'est une stratégie politico-économique qui a été mis en place par les rois en Méditerranée. Donc des corsaires basques, il y a eu des pirates. Et en Méditerranée, vu que c'était le berceau de la navigation, c'était le berceau du commerce, mais c'était aussi le berceau de la piraterie. Voilà. Alors il y avait les Arabes, mais il n'y avait pas que les Arabes. Voilà, la conclusion, c'est que par la création d'un réseau et de relais de commerce, ces marins basques polyvalents, qui étaient des pêcheurs, des chargeurs, des transporteurs, des commerçants et des corsaires, ils allaient jouer un rôle de premier plan en Atlantique pour la pêche et le commerce, donc sur le siècle suivant, puisque les premières organisations, expéditions à la morue, commencent en 1517. Ça, c'est pas le mythe, c'est la réalité. C'est-à-dire, ce sont les écrits que nos chercheurs ont retrouvés plus particulièrement à Bordeaux, qui nous intéressent, nous, par rapport aux flottilles à Bourdine, puisque la richesse de Saint-Jean-de-Luz s'est constituée grâce à la pêche hauturière et justement par rapport à leurs expéditions. Alors, il y a du mythe, on n'arrive pas à prouver certaines choses, et ce qu'il faut voir, c'est les projets, donc, depuis 40 ans, depuis les années 70. Donc, quant à Red Bay, ils ont retrouvé l'épave du San Juan et de la Baleinière. Grenier et Rabiel Agoté ont mis en place ce projet donc, d'Albaola Factoria, qui est en train de relancer, avec les études qui sont réalisées au Canada et avec la reconstruction donc, du San Juan, eh ben, toute cette affaire des marins basques donc, en Atlantique Nord et de la pêche à la baleine. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et s'il y a des questions, on les verra après. Je repasse le micro donc à Xavier Aramendi. Merci.
Nous avons fait du commerce et maintenant on va faire un peu de pêche. On va faire un peu de pêche parce que pendant tout ce temps-là, nos marins, pêcheurs, voient passer au large, et on les voit depuis les différents atalayas, depuis Bilbao jusqu'à Guétari, et on voit passer des baleines, figurez-vous. Et ces baleines, ben, c'est quand même assez agréable d'aller les pêcher, parce que quand on pêche la baleine, on peut nourrir sa famille, premièrement. Et si on est un petit peu malin, on va faire fondre la graisse de la baleine. Et en faisant fondre de la graisse de la baleine, on va réussir à avoir un produit qui sera extrêmement utile pour deux choses. La première, c'est la préparation de la laine. Donc c'est un produit qui va être envoyé vers l'Angleterre. Et la deuxième, c'est pour l'éclairage. Et ça, on va l'envoyer beaucoup plus vers les Pays-Bas. Et les Pays-Bas vont l'envoyer directement après sur la Baltique. Donc, il va se créer petit à petit une pêche. Alors, c'est pratique parce que, bon, on regarde, là, tout d'un coup, on s'est dit, tiens, il y a une baleine qui passe, ou il y a plusieurs baleines qui passent. Les gens sautent sur leur bateau. Ce sont des bateaux à rames et ils vont aller, donc, taper la baleine. Et, évidemment, au bout d'un moment, il y a moins de baleines qui passent. Elles sont intelligentes, les baleines, elles passent un petit peu plus à l'ouest. Et ben, les Basques s'organisent aussi, et on va les suivre, les baleines. Et en suivant les baleines, on va petit à petit à remonter. Et en remontant, on va, bien sûr, on arrive du côté de l'Angleterre, mais là, on les connaît, les Anglais, etc., ils sont sympas et tout ça. Bon, avec les Hollandais, on a aussi de bonnes relations. Et puis, on apprend qu'il y a des choses qui sont peut-être intéressantes, qu'il faudra regarder du côté de l'Irlande, etc. Et donc, on va aller un petit peu sur la gauche, un petit peu au hasard, et un peu par hasard, on va continuer à trouver des baleines, mais ça va plus être exactement la même baleine, la baleine biscayenne qui remontait. C'est une nouvelle race de baleine qu'on va découvrir, qui, elle, a tendance à descendre, je dirais, de l'Arctique vers ce qu'on peut appeler le sud. Enfin, c'est Terre-Neuve, hein, ça caille hein, quand même, il faut se le dire. Et on va tout d'un coup découvrir qu'il y a un potentiel intéressant. Et on va découvrir donc petit à petit des pêches, etc. Et on va organiser la pêche à la baleine. Alors, la pêche à la baleine, c'est on partait pendant 6 à 8 mois là-bas et on traitait, si j'ose dire, la baleine sur place et on faisait fondre justement ses graisses, etc., qu'on envoyait quelquefois directement, elle passait même plus ici, elle partait directement vers les Pays-Bas, quelquefois elle partait directement vers l'Angleterre, suivant les types de produits qu'on faisait. Mais quelquefois, elle redescendait ici. Bon. En même temps, on a trouvé aussi qu'il y avait d'autres petits poissons qui étaient là, qui étaient sympas. Donc, on a commencé à pêcher et à s'établir. Et donc, dans les différents endroits, on va avoir des choses amusantes. Là, vous avez par exemple un Terre-Neuve. Bon. Terre-Neuve, dans toute cette partie, la côte nord, là. Vous avez un point qui s'appelle Côte Basque, qui est là. Et dans cette Côte Basque, vous savez ce que vous allez retrouver ? Vous allez retrouver Saint-Jean-de-Luz. Moi, ça m'a beaucoup amusé, parce que Saint-Jean-de-Luz se trouve sensiblement ici, là. Et ça existe. Ça existe sur les cartes du XVIIe, etc. Et alors, pour la petite anecdote, J'avais perdu ce Saint-Jean-de-Luz dans mon ordinateur. J'arrivais plus à le retrouver. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai écrit à la Bibliothèque nationale de France pour savoir où était Saint-Jean-de-Luz à Terre-Neuve. Et bon, on m'a demandé 3 jours de réflexion. Au bout de 3 jours, je reçois une réflexion en disant, mais il n'existe pas de Saint-Jean-de-Luz à Terre-Neuve. Il n'y a que Saint-Jean de Terre-Neuve. D'où la réponse que je leur ai faite. Saint-Jean de Terre-Neuve, c'est la capitale de Terre-Neuve. Ils ne savent pas, bon, il faut leur apprendre, mais ils apprennent. Mais on a retrouvé Saint-Jean-de-Luz. Et en fait, c'est amusant parce que ça s'appelait, au 18e, ça s'appelait la Côte Basque. Donc toute cette partie-là, si vous voulez, c'était la Côte Basque. Et par contre, il y avait de la baleine qui se situait, si vous voulez, ici. Et on retrouvait, les gens aimaient beaucoup aller à Plaisance, c'est là, hein, et les Basques aimaient bien ce coin-là. Juste à côté, on retrouve des appellations. Alors ce sont des appellations qui sont soit de Biscaye, soit de Guipuscoa, soit d'ici, du Labour. Et petit à petit, les gens, après avoir fait, je dirais, après avoir un petit peu regardé la baleine, etc., il s'est passé le même phénomène, il y a eu moins de baleines. D'accord ? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben là, instruits par ce qu'ils avaient appris, ils ont suivi les baleines. Ben, je vous le donne en 1000. Vous savez où est-ce qu'ils sont arrivés ? Ils sont arrivés au Brésil. Nos pêcheurs baleiniers, ils ont passé 10 ans au Brésil, d'accord ? Ils ont nourri les populations du Brésil, ils ramenaient bien sûr la partie qui était la plus importante financièrement, qui était l'huile de baleine, mais ils ont passé 10 ans. Ça faisait partie, je dirais, dans les recherches, des quelques petites surprises qu'on a pu avoir. Enfin, en ce qui me concernait, je ne pensais pas qu'on était parti au Brésil. Enfin, bon, j'étais très fier de ça, donc je voulais vous en faire partager. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans cette partie, j'irai de pêche à baleine, la pêche à la morue après, etc., ça fait quand même un grand trajet. Tout ce qu'on avait vécu au siècle précédent, c'est-à-dire toutes les relations qu'on avait avec les Anglais, les relations qu'on a eues avec les Pays-Bas, etc., nous ont permis justement de développer tout un business qui était beaucoup plus sérieux que simplement la pêche qu'on voit, on se dit ouais c'est facile, on met un filet, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et Bernard nous en a donné un certain exemple. Il y a un point quand même qui mérite, il y a plusieurs points qui méritent l'intérêt. Lorsqu'on arrive à Terre-Neuve, on va avoir la localisation des pêcheurs a changé à peu près de 15 ans à 15 ans. Et donc quand on retrouve, ouais, ça doit être celle-là. En 1530 jusqu'à 1580. On voit que les pêcheurs, en tout cas d'ici, sont basés essentiellement près de Plassin-Sias, que je vous montrais là tout à l'heure, hein, c'est toute cette zone-là, et puis ils sont un tout petit peu ici. Ils sont pas très très loin, en fin de compte, de ce qu'on appelle la baie des Chaleurs, là, qui se trouve ici, et là où on trouve l'Acadie. Quoi. Là, on est en Gaspésie, et puis là, on trouve l'Acadie. Et quelques années après, donc ça va jusqu'à 1580, de 1580 à 1630, on voit que les pêcheurs basques vont bouger, donc ils vont aller de Canceau, ils arrivent effectivement sur la Gaspésie et puis sur un petit peu sur l'entrée, je dirais, de la baie des Chaleurs, et ils vont redescendre pratiquement jusqu'au Saguenay. Hein, ça c'est le Saguenay qui descend là. Incidemment, il y a encore des baleines au Saguenay. Hein. Et puis en 1630, là, on a bon la côte nord qui est bien utilisée, la côte l'ouest de Terre-Neuve est bien occupée, ainsi que le sud de Terre-Neuve. Et là, on a aussi une bonne concentration. 1713, c'est un petit peu la fin, si vous voulez, de l'aventure que nous avons au Canada, parce que le roi qui s'est marié ici, la Louis XIV, il n'a pas été sympa avec nous. Hein. parce qu'il a signé le traité d'Utrecht. En signant le traité d'Utrecht, il nous a virés du Canada. Ceci étant, si vous voulez, il y a un mythe qui existait. Le mythe était de savoir que bon, qui avait découvert le Canada, etc. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. La chose qui semble la plus probable, en tout cas, c'est que les Vikings ont précédé au Xe siècle, je dirais, sont les premiers à avoir visité, je dirais, le Canada. Mais il n'y a rien d'écrit là-dessus. Et on n'a pas pour l'instant de preuves, je dirais, matérielles. Sur tous les déplacements que nous avons là, on retrouve, je dirais, alors il y a eu les travaux, les différents travaux, que ce soit de Laurier Turgeon, on a eu les différents travaux qui ont été réalisés également par Albaola, a fait des travaux avec l'université de Montréal, et où on arrivait à retrouver tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez été, si certains d'entre vous ont eu la curiosité d'aller voir ce qui se passe à Passares. À Passares, donc, on reconstruit le San Juan. Le San Juan est un bateau qui s'est échoué au XVIe siècle, je dirais, en voulant pêcher la baleine. Et là, on reconstruit vraiment à l'identique le bateau. Et je crois que dans 2-3 ans, le même bateau va pouvoir repartir officiellement, je dirais, à Terre-Neuve. Je crois qu'il y a un accord qui est en voie de signature, sinon il est signé, pour que ça se fasse, je dirais, tout à fait officiellement. Je vous invite en tout cas à aller voir fortement ça. C'est un très beau chantier, et vraiment ça a le mérite d'exister. Et vous pouvez faire comme ça deux choses. Vous faites le musée de la mer, et puis ensuite vous allez de l'autre côté, vous allez voir le... Bon, je fais de la pub un peu, mais enfin, excusez-moi. Ceci étant, les Basques se sont arrêtés et généralement, donc, ils ne s'établissaient pas. Et ils voyaient donc les Micmacs, ils voyaient les Inuits, etc., avec qui ils discutaient, avec lesquels, généralement, ils ont eu de très bons rapports. Ils ont eu de très bons rapports parce que ils n'étaient pas insultés, ils étaient traités comme des gens, je dirais, d'ici. Ils travaillaient, donc ils étaient payés pour ça, ils recevaient quelque chose. Et puis on a commencé à faire des échanges. Et les échanges, ça pouvait être à la fois des petits objets usuels, des faïences, etc. Mais ça pouvait être, je vois sur Motricot par exemple, ils ramenaient des pots pour faire des chaussures. Et ces chaussures étaient tout à fait remarquables parce qu'en utilisant la peau de ces différents animaux, on pouvait avoir une chaussure qui était parfaitement imperméable et qui était après utilisé par les pêcheurs quand ils repartaient à Terre-Neuve. Je trouvais ça amusant. Je me demandais si c'était le début de la chaussure à Asparin, mais ce n'était pas ça. Ce qu'il y a aussi de particulièrement intéressant, c'est que dans la langue, notamment des Inuits, une bonne partie du langage est basque. Et notamment dans la marine. Il y a en 77, je discutais avec un archéologue à l'époque. Je pensais même pas que les Basques étaient là. Et le type vient de demander au ministère des subsides. Et voyant que j'avais un nom basque, il me dit oui, je pensais vous approcher parce que vous êtes basque. Je dis oui, je suis basque. Et il a eu ses 70 000 dollars, mais j'ai appris quand même plusieurs choses. J'ai appris que les affluents des principaux fleuves qui se jettent dans le Saint-Laurent portent l'appellation après Kiki, qui en basque veut dire petit. Et ça m'a beaucoup amusé. Après, quand je regarde les cartes, j'ai toujours un souvenir pour ce brave garçon qui était venu. Mais j'ai jamais reçu le compte rendu de ces papiers. Et les relations, à mon sens, alors il y a des divergences de vues, et la divergence de vues, elle vient après, si j'ose dire, à l'arrivée de Champlain. Champlain arrive dans un bateau dans lequel, quand on regarde la composition de l'équipage, on s'aperçoit que la moitié des personnes qui sont dans le bateau sont des gens qui sont certes nobles, mais qui sortent de prison. Ça n'a pas loupé, je dirais. Ils sont arrivés au Canada, etc. Ils ont rencontré un Indien, peu importe, si j'ose dire, qu'il soit Micmac, qu'il soit Inuit, etc. Et à ce moment-là, si l'Indien ne satisfaisait pas les demandes, à ce moment-là, il le tuait. Et donc là, c'est une période qui est postérieure, donc c'est le 17e, qui est assez triste pour les autochtones, comme on les appelle maintenant, on ne les appelle plus Indiens. Voilà, je voulais savoir si vous aviez des questions à poser. Soyez pas très timide, hein. Passarès. Alors, Passarès se trouve, vous partez vers Saint-Sébastien, et en allant sur l'autoroute, vous allez voir Pachaya qui est marqué. Et c'est sur la droite. Et allez-y, ça vaut la peine.
Ma question est la suivante. Qui finalement a découvert le Canada ? Vous n'avez pas tout dit là.
C'est vrai, il faut que je vous garde des choses pour la fin quand même. Là, je vous ai parlé des gens qui sont venus 40 ans avant Jacques Cartier, hein. Que vous me parliez des Vikings, je veux bien. D'accord ? Mais pas Jacques Cartier. Je pense qu'il y a peut-être eu des Anglais qui sont venus, mais peut-être des Portugais plus probablement. Dans les Portugais, on arrive à retrouver quand même quelques éléments qui nous font penser que les Portugais sont venus avant les pêcheurs d'ici. Mais c'est pas Jacques Cartier, ça je définitivement.
Moi, j'aurais une remarque, une question. Dans le développement du cabotage, le problème, c'était le transport des marchandises entre le monde méditerranéen, le monde flamand, britannique. Avant, c'était les foires de champagne. Amélioration de bateaux, les foires de champagne, passez-moi l'expression, ça casse la figure, on fait le tour, et là, les basses jouent le rôle de chauffeurs, non pas de taxi, mais chauffeurs de marchandises, et les foires de champagne disparaissent, la nuit, ainsi de suite. Ça me paraît être une introduction à ce que vous avez dit après sur le cabotage. L'autre question que je me posais, c'est sur le fret, et entre autres sur la laine. Parce que le fret, c'était la laine espagnole qui montait ou la laine anglaise qui descendait. Et accessoirement, la laine, comme vous l'avez dit fort justement, la graisse de la laine servait à la laine anglaise. Mais je voudrais bien savoir dans quel sens était le commerce de la laine.
Alors... On envoyait de la graisse de baleine pour traiter la laine en Angleterre, pour affiner, je dirais, sa qualité. Et à ce moment-là, les Anglais pouvaient la réexpédier, et pas forcément aux mêmes endroits, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas nous envoyer. D'accord ? Et votre premier point, c'était ? Ah oui, les marchés. Alors, c'est très intéressant, les marchés. C'est très intéressant. Vous avez, par exemple, le marché de Lyon. Le marché de Lyon au XVe siècle est très important et va envoyer énormément de marchandises, notamment sur Marseille. Il va faire vivre extrêmement bien d'ailleurs les Génois qui vont profiter de ça et les Génois vont s'établir, je dirais, sur Lyon. Et il n'y a pas que ça, c'est que les Vénitiens vont faire une route, mais moi ça m'a vraiment surpris parce qu'ils font une route qui va directement non pas par mer mais par terre et ils vont aller jusqu'au nord, jusqu'en Baltique et là ils ont vraiment de très très bons échanges. Après, ces marchés étaient très importants et on les voit aussi, je dirais, dans la partie sud, dans toute la partie Afrique du Nord, on voit qu'il y a des séries, je dirais, de gens qui viennent faire leurs courses, si j'ose dire, et on a les caravanes qui repartent avec des achats.
Très vieille route qui date peut-être pas du paléolithique, mais quasiment, cette route d'aller chercher de l'ambre sur la Baltique. Et l'autre point, à mon avis, sur lequel il faut insister, c'est que Venise, passez-moi à nouveau l'expression, se casse la figure quand les Ottomans prennent la Turquie. Même les flottes, on parle de Gênes, et quand tout à l'heure vous avez cité des grands marins, ainsi de suite, ils étaient génois. Il n'y a pas de Vénitiens. Venise, là, c'est une croix, et je me transforme en route terrestre. Et je reprends une très vieille route. Qui date d'il y a longtemps.
Alors moi, je voudrais juste vous rajouter une petite chose concernant la question préalable donc de la laine. La laine, vous connaissez la laine des Shetland, vous connaissez la laine Mérinos, la laine de Castille, ça permettait de faire des vêtements beaucoup moins chers, si vous voulez, et alors que la production de laine était beaucoup plus supérieure, si vous voulez, en Angleterre. Et donc c'était les qualités de lainage. Après c'était le tissage de ces et le travail de ces laines-là, soit pour en faire des vêtements, soit pour en faire des draps, soit pour en faire des différents textiles. Ce qu'il faut bien voir, c'est que on exportait les Basques exportaient donc depuis la Castille, depuis essentiellement Balbaceda. Je crois qu'il y avait 80 points de douane. Philippe II avait mis en place un système donc pour récolter des taxes, et effectivement c'était le port de Bilbao qui en termes de tonnage était le plus représentatif et le plus important. Voilà.
Eh bien écoutez, il nous reste à vous remercier de votre patience.
15e et 16e siècle, les Basques de la Méditerranée à la Baltique et à Terre-Neuve. Vous venez d'entendre la deuxième et dernière partie de la conférence de Xavier Laramendi, vice-président de Yakinsa, et de Bertrand Ariag, capitaine des Corsaires. Une conférence enregistrée le 9 août 2022 à l'église de Saint-Jean-de-Luz.
L'eau des hommes et les hommes de l'eau. Les mardis de l'été 2022 à Saint-Jean-de-Luz. Un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.